Radio Kapi.
Le journal Pascal Masérica.
À la une de l'actualité, un refoulement massif de Congolais d'Angola s'observe vers la frontière de Kamako. D'ores et déjà, l'hygiène aux frontières déplore les conditions dans lesquelles ces familles retournent au pays. Accalmie sécuritaire ces jours-ci dans les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira au sud Kivu. Depuis plus de deux semaines, en effet, il n'y a pas d'incident majeur signalé dans ces zones chaudes. Les FARDC appellent la population à la collaboration. Notre invité, c'est le recteur de l'Université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, a parlé des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se tiennent dans cette ville. Objectif affiché, la remise en cause de ces secteurs pour répondre aux besoins de la société. Madame, Messieurs, bonsoir. Au Kasaï, un mouvement massif de Congolais venus d'Angola s'observe ce jour-ci vers la frontière de Kamako dans les territoires de Tchikapa. C'est à la suite d'un ultimatum lancé par les autorités angolaises demandant aux étrangers non en règle de retourner dans leur pays. D'ores et déjà sur place, l'hygiène aux frontières déplore les conditions dans lesquelles ces familles retournent au pays. Le responsable de ces services redoute des maladies. Christian Mabedi a été joint par François Kadima.
Ils viennent en masse. Il n'y a pas moyen de respecter les mesures barrières. Il n'y a pas moyen de faire une bonne surveillance parce qu'ils sortent en masse. Les conditions ne sont pas vraiment très bien réunies. Ils ont un problème de transport. De l'autre côté, ils viennent au bord de Vekil. Mais chez nous ici, la distance qui sépare la frontière jusqu'à la cité, c'est quelque chose de plus de 7 kilomètres. Ils font le pied. Il y a même dans leur groupe, il y a même les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants non accompagnés, lorsqu'ils arrivent à la cité, vous voyez la prise en charge pose des problèmes. Et surtout que ces derniers temps, toute la bande frontalière est enclavée, surtout Kamako. Il n'y a pas une bonne communication routière avec Tchikapa. Situation humanitaire est précaire.
Ici à Kinshasa, tous les élèves du collège Saint-Georges qui se sont auto-filmés la semaine dernière en plein débat sexuel sont exclus définitivement de l'établissement. Ils sont également interdits de fréquenter n'importe quelle école du réseau catholique. Telle est la décision du conseil de discipline de cette école hier mardi lors d'une réunion extraordinaire en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba. Cette décision suscite plusieurs réactions dans l'opinion. Alain Rongmouchige.
Préalablement, la décision du conseil de discipline du collège Saint-Georges dans la vidéo qui circule sur la toile, en plus de l'exécution, interdisait à ses élèves d'être réinscrits dans n'importe quelle école sur l'ensemble du territoire national. Cependant, elle a été nuancée après. Le ministre de l'EPST, qui était aussi présent lors de l'annonce de la dite décision, explique dans une autre vidéo en présence de son collègue des droits humains, Tony Mwamba.
J'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où.
De son côté, le ministre des Droits humains dit soutenir cette décision qu'il qualifie d'exemplaire. Cependant, Fabrice Albert Puella estime que ces enfants doivent être pris en charge pour les recadrer.
Nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer parce que personne n'acceptera d'avoir ses enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles ou même de ses garçons.
Dans l'opinion quinoise, cependant, la première décision du conseil de discipline du collège Saint-Georges d'exclure ses élèves du système éducatif congolais avait suscité beaucoup de réactions, certains la qualifiant de sévère.
Merci Alain Hirung pour ces précisions. En réaction à cette préoccupation, le président de la Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et des Élèves, Lizadel, salue la décision d'exclure ses élèves de l'école qu'il qualifie d'exemplaire. Godefroy Kayembe appelle également les autorités et les parents à veiller à ce que cette pratique n'entame les autres enfants. Il le dit à Paul Matendo.
L'autorité doit beaucoup veiller pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres enfants. Parce que ce qu'ils ont posé, les autres enfants peuvent aussi faire la même chose et l'État ne sera pas contrôlé. Il faut sanctionner sévèrement pour que les autres enfants, éventuellement, qui peuvent imaginer faire les mêmes vidéos, puissent s'abstenir. J'applaudis de demain la décision prise par l'autorité. le ministre de l'EPST, cette fois-ci, de pouvoir sanctionner sévèrement ces genres d'enfants. Je crois que la décision prise, elle a été bonne et elle a été prise pour sauver, en principe, les autres enfants, éventuellement, qui pouvaient tomber dans le même piège. Je félicite le ministre de l'EPST pour avoir pris cette décision et j'encourage que ce genre de sanctions puisse être prise davantage pour corriger notre société qui est en péril.
Et puis l'artiste et musicien congolais Pascal Lokwakanza devient à partir de demain jeudi l'ambassadeur national de l'UNICEF. Il s'est dit motivé de faire partie de ceux qui peuvent donner un coup de main aux enfants. La signature de cet agrément de 2 ans renouvelable a eu lieu le 17 août dernier à Kinshasa entre la star congolaise et le représentant de l'UNICEF en RDC. Cet agrément marque ainsi le début de la semaine internationale de l'alphabétisation. Lokwakanza le dit au micro de Jocelyn Poy.
Pour moi, c'est un grand honneur. Je suis très ému parce que je pense que l'avenir de nos peuples, de notre pays en particulier, c'est les enfants. Et je suis ambassadeur en tant que représentant des enfants pour l'éducation. Et pour moi, c'est un grand jour. J'espère être surtout à la hauteur de ce qu'on m'a donné comme mission. Les enfants, c'est l'avenir. Mais en même temps, si on ne les encadre pas, ça devient un danger énorme. Donc c'est à nous, adultes, c'est à l'UNICEF et à d'autres. Mais en tout cas, je dirais plutôt nous tous, nous sommes concernés. Et cette mission, pour moi, elle est très importante. D'où la raison de s'engager avec son cœur, son âme et toute sa connaissance. C'est vraiment le moment idéal, vu que j'ai toujours eu envie d'avoir une école de musique. J'ai toujours eu envie de transmettre ma petite connaissance que Dieu m'a donnée. Je pense que là, c'est l'opportunité rêvée. Ben, ce qui m'a motivé, c'est faire partie des gens qui peuvent donner un coup de main à nos enfants, un coup de main à notre futur. Parce que notre futur nous concerne tous. Souvent, on passe sur la terre, on s'occupe que de soi. Et c'est rare quand on s'occupe des autres. Je vais être leur porte-parole, je vais être leur voix parce que c'est pas évident à cet âge-là de pouvoir parler pour soi dans des institutions et autres. Ça sera mon devoir d'aller vers les autres, pouvoir leur apporter un coup de main de temps en temps sur des besoins précis ou momentanés qu'ils ont besoin.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, une accalmie sécuritaire s'observe ce jour-ci dans la province du Sud Kivu et plus particulièrement sur les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira. Depuis plus de 2 semaines en effet, il n'y a pas eu d'incident majeur signalé dans ces zones chaudes. Les FARDC attribuent cette accalmie à leur prédominance sur la coalition des groupes armés dans la région. Les FARDC appellent par conséquent à la collaboration de la population. Le point de la situation avec vous, Emmanuel Elamejo Kabedi.
Il va faire bientôt un mois que le Sud Kivu vit une accalmie sécuritaire totale. Des hauts plateaux d'Uvira et Fizi, en passant par la plaine de la Ruzizi, aucun cas d'attaque ou d'affrontement n'est enregistré. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au Sud-Sud attribue cette accalmie à l'engagement de l'armée régulière. Major Dieudonné Kasereka.
Pour le moment, il y a de la calvie depuis que nous avons frappé cette coalition mécanique à Tugonéo et ils ont été mis en débandade. C'est comme ça qu'il y a de la calvie. Mais nous continuons à demander l'accompagnement de la population. Si la population va continuer à nous soutenir, cette calvie va perdurer.
Cette situation favorise à présent le mouvement de la population pour des activités commerciales et économiques. Dans le territoire de Calais qui vit la même accalmie, le grand défi reste la lutte contre la pauvreté. Monsieur Dédé Mwamba, administrateur de territoire.
Il n'y a plus vraiment de problème. On a besoin que de la paix qui égage même du développement dans les hauts plateaux. Puisqu'il faut vous dire que la population du haut plateau continue à souffrir sérieusement. Parce qu'il y a une pauvreté, l'inaccessibilité, il n'y a même pas de route.
Signalons que la plupart des groupes armés du Sud Kivu adhèrent déjà au programme DDRCS pour leur réinsertion communautaire. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Nord Kivu, par contre, la situation sécuritaire et humanitaire est déplorable dans le groupement du Fumandu 1er en territoire de Massissi. L'alerte est du ministre provincial de l'Intérieur en suspension momentanée. C'est suite à l'activisme des miliciens du groupe Machano à Gouma qui sont rentrés dans cette entité après leur désertion du centre de reddition des Mubambiro. Jean Bosco Sebishimbo appelle les humanitaires à jeter un regard sur ces déplacés à Gouma. Denise Lukeso.
Au moins une dizaine d'agglomérations du groupement Ufamandu 1er sont vidées de leur population. Ces dernières ont fui vers le centre de Kachovu, Nyamili et Remeka, entre autres. C'est à cause de l'insécurité accrue causée par la milice Machano de retour dans cette région. Sur place, leurs conditions de vie restent à désirer, alertent les ministres de l'Intérieur en congé et élus du terroir. Ils lancent un plaidoyer auprès des humanitaires pour qu'ils puissent focaliser leur attention sur ces coins et subvenir aux besoins de cette population qui a presque tout perdu.
Pendant que cette population était au point de pouvoir récolter, voilà, les rebelles viennent prendre possession de leurs espaces. Et c'est comme ça que la population a fui pour se concentrer là où il y a au moins nos forces armées. C'est une période pluvieuse qui commence. Ça veut dire que cette population a besoin de bâches pour se couvrir contre les intempéries. Une population qui a tout laissé. Ça vaut la peine que je fasse ce plaidoyer pour que les humanitaires puissent orienter les yeux vers là et ainsi voir cette population un peu soulagée.
Jean Bosco Sebichimbo dit fonder son espoir aux forces loyalistes pour permettre à ces populations de rentrer dans leurs biens. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Santé à présent, 267 cas dont 129 décès sont déjà enregistrés depuis le mois de juin dernier. C'est le bilan de l'épidémie de méningite qui sévit actuellement dans la zone des santé de Banalia dans la province de la Tchopo. La tranche d'âge la plus touchée est de plus de 15 ans. Ces chiffres ont été communiqués mardi ici à Kinshasa par la vice-ministre de la Santé publique. Véronique Kilumba explique les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour faire face à cette épidémie. Ses propos ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
19 échantillons de liquides céphalo-rachidiens ont été prélevés et envoyés au laboratoire Pasteur de Paris en France. Les premiers résultats sont sortis en date du 6 septembre 2021 et confirment la présence de Neisseria meningitidis sérogroupe W. Plusieurs actions ont été entreprises sur terrain déjà avant la confirmation, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique et des laboratoires, l'isolement et la prise en charge des cas et la sensibilisation de la communauté. Une équipe du niveau central est déjà à pied d'œuvre sur terrain pour appuyer la province. Au vu des normes et recommandations du règlement sanitaire international RSI 2005, nous déclarons ce 7 septembre 2021 l'épidémie de méningite à méningocoque dans la zone de santé des Banalia, dans la province de la Tchopo.
Et puis, plus de 25 personnes sont mortes depuis le mois d'avril dernier au site de déplacés de Djaïba, faute de soins médicaux appropriés. Annonce faite mardi après-midi par le président de cette communauté lors d'un entretien avec le leadership de la MONUSCO en visite de travail dans les territoires de Djougou en Ituri. Dieudonné Padjou affirme que plus de 2000 familles manquent de tout. Conséquence, certains malades sont obligés d'aller très loin pour s'approvisionner en médicaments essentiels. C'est qui les expose aux exactions des miliciens de la CODECO qui écument la zone. Il le dit à Martial Kizabiamungu.
Sur les plans sanitaires, nous n'avons pas moyen de nous soigner quand il y a des cas de malades, par exemple. Et ici, récemment, avec la saison pluvieuse ici, le froid, on est mal à l'aise, on passe une nuit sous des bâches, dans la boue, vraiment on est mal à l'aise et quand quelqu'un tombe malade, il meurt automatiquement. Nous avons déjà enterré 25 morts depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant. Il n'y a pas l'accès de soins, le manger, vraiment c'est complet. Et ce que nous pouvons dire aux humanitaires, jusque-là nous ne sommes pas assistés. Chacun vit de sa manière. Quand quelqu'un sort le matin pour du moins s'endetter quelque part dans les familles de connaissances comme ça, bon, là on va peut-être lui donner des petits travaux pour avoir du moins 1500 francs. Les gens vivent toujours de cette manière.
Notez que la responsable d'Edotia en Ituri, qui était à cette réunion, a précisé qu'une réunion des ONG intervenant dans cette région aura lieu le 17 septembre pour évaluer les besoins humanitaires d'urgence en vue d'une intervention. Pour la suite du journal sur Radio Capi ce soir, sachez que le gouvernement congolais envisage de coupler l'enrôlement des électeurs, le recensement et l'identification des Congolais. Lors d'une réunion tenue hier mardi à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge a examiné cette option avec la commission mixte d'experts conduite par le ministre du Plan, Christian Mwando. Ces experts sont de la primature, du ministère du Plan, de l'Institut national de statistique, de l'Office national de l'identification, de la population et de la CENI.
Actualité internationale.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015, les pires attaques djihadistes commises en France, s'est ouvert ce mercredi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. 20 accusés seront jugés pendant 9 mois, dont Salah Abdel Salam. Il s'agit du seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis lors d'une nuit d'horreur qui a traumatisé le pays. Deux jours après l'évasion de 6 détenus palestiniens d'une prison israélienne, l'État hébreu tente de comprendre comment ces prisonniers ont réussi à creuser un tunnel pour sortir de cette prison de haute sécurité à Gilboa, dans le nord du pays. Les forces israéliennes ont appréhendé du coup des membres des familles des fugitifs.
L'invité.
Notre invité, c'est le recteur de l'Université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, parle des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se tiennent depuis quelques jours à Lubumbashi. Objectif visé, la remise en cause de ces secteurs en vue de son amélioration pour répondre aux besoins de la société. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Monsieur le recteur Gilbert Kishiba, bonjour.
Bonjour, merci.
Est-ce que c'est important d'organiser les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire?
On n'avance pas lorsqu'on ne sait pas se remettre en question, lorsqu'on ne sait pas faire l'autocritique, de savoir d'où on vient, où l'on se trouve, où on devrait aller. En regardant sur sa propre expérience, son parcours, l'expérience et les apports des uns et des autres, y compris les expériences d'autres universités et d'autres universités. C'est la sommation de cette remise en question, objet d'ailleurs des universités. En passant par la recherche, on s'interroge absolument quelles seraient les meilleures solutions par rapport à l'éducation RDC dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son excellence Zandi, a trouvé qu'il était important de relayer immédiatement le programme gouvernemental sur l'éducation mu par le président de la République en vue d'obtenir un enseignement supérieur universitaire de qualité, dans le sens de rendre compte au service à la communauté à travers la recherche et l'éducation. Donc c'est important, il fallait vérifier si nos méthodes de travail, nos systèmes d'enseignement, de formation conviennent à la qualité que nous voulons chercher, à l'université que nous voulons.
Monsieur le recteur, vous êtes en même temps président de la conférence des chef d'établissement dans l'espace Grand Katanga. Quels sont donc les problèmes particuliers ou spécifiques à cet espace et qui pourraient être débattus au cours de ces assises?
C'est des problèmes globaux et spécifiques à toute la RDC. En misant sur les apports et les mises en commun des uns et des autres pour chercher les meilleurs moyens, les meilleures façons, les meilleures méthodes, les meilleurs modèles en vue d'avoir un enseignement qualitatif justement. Et là, il y a une volonté du gouvernement de faire avancer l'enseignement supérieur universitaire vers la compétitivité, vers l'innovation, et ça nécessite un redressement, un réajustement de nos modèles, de nos façons de procéder pour avoir un nombre qualitatif au sujet d'une société qualitative. En fait, c'est une question de mise en valeur de plusieurs réflexions qui finalement ont fait preuve d'efficacité, par exemple le système d'enseignement RDC, mais qui au fil du temps devrait être contextualisé, répondre à une certaine authenticité ici en RDC, en cherchant la qualité, avoir un système qui rassure et qui peut garantir d'une façon ou d'une autre, mis à part les volontés politiques, les politiques publiques, les budgets en vue de soutenir, entraîner tout ça vers un mouvement d'innovation.
Que diriez-vous à ceux qui pensent que les méthodes qui sont actuellement utilisées dans nos universités sont dépassées, il faut vraiment les réactualiser?
Oui, c'est nécessaire d'écouter toutes les options, toutes les voies, en vue de convenir sur une option consistante et innovante. La critique, elle est bonne. Évidemment, on attend la pratique.
À l'université de Lubumbashi, par exemple, il y a le système LMD qui avait été tenté une fois. Sous d'autres yeux, ce système est en train d'être repoussé. Alors, comment voulez-vous embrasser ce que les autres sont en train de vouloir s'en débarrasser?
Lorsqu'il appelle à l'universalité, s'il est bien appliqué, et nous pouvons prendre le risque de l'universalité, c'est aussi ça le destin des universités, entendu qu'on peut avoir un LMD à la façon de la RDC. Un LMD qui ne rejette pas les acquis, les valeurs, les richesses de notre système éducatif consistant et qui a fait ses preuves dans le cadre de la formation, de la ressource. On peut constater aussi qu'il faut une mise en valeur du point de vue de l'innovation. Et donc la recherche aurait besoin qu'on aille vers ces tendances à l'universalité sans que nous soyons une copie de quelque système que ce soit. Donc s'il y a un système éducatif de tel pays qui remet en question le LMD ou un autre système éducatif, ça peut ne pas nous engager. Ici, nous sommes à la recherche d'un système éducatif qui rassure et garantit le point de vue de la formation de qualité pour une société qualitative.
Gilbert Kisséva, je vous remercie.
Merci, Monsieur Jean Gandou.
C'était l'invité de Radio Okapi, le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, était interviewé par Jean Gandou. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Alain Rungumoshish qui m'a accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.